nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
On passe une demi-heure ensemble pour...
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Quelle est l'originalité de l'université d'Al-Azhar, grande université du Caire ? La mosquée université d'Al-Azhar a été créée à leur arrivée au pouvoir par les Fatimides, une dynastie chiite qui régna de 969 à 1171. Elle a connu de nombreux agrandissements au cours des siècles et fait aujourd'hui figure de bastion du sunnisme. Dans l'Égypte contemporaine, depuis Nasser, la position enviée du cheikh d'Al-Azhar est devenue plus importante même que celle du mufti de la République ou que celle du ministre des Waqf. Avec son porche d'époque ottomane, ses trois minarets des 14e, 15e et 16e siècles, ses coupoles, ses madrasas mamelouks, sa belle cour centrale dont le plan et la disposition remontent au 10e siècle et sa vaste salle de prière remaniée au 18e, Al-Azhar présente un mélange de styles architecturaux et d'espaces différents qui n'en font pas la plus belle mosquée du Caire, mais qui traduisent une longue histoire. Ce n'est pourtant qu'au milieu du XVIIIe siècle, à l'époque ottomane, qu'Al-Azhar, dominé par des cheikhs de la confrérie soufie Khalwatiya, venue de Haute-Égypte, prend la tête de l'enseignement religieux en Égypte en éclipsant des madrasas provinciales en déclin. C'est aussi à cette époque que la fonction du cheikh d'Al-Azhar, créée à la fin du XVIIe siècle par les Ottomans, s'affirme. Doté d'un pouvoir important lors de l'expédition d'Égypte, les oulémas d'Al-Azhar sont progressivement marginalisés par le pouvoir de Mehmet Ali, puis par les vice-rois. Ils sont concurrencés par la création d'écoles modernes, écartés dans les tribunaux mixtes. Ces oulémas firent généralement obstruction aux réformes et à l'occidentalisation. La création de Darul Uloum, sorte d'école normale supérieure, en 1872, et surtout de l'école de la magistrature en 1907 et de l'université égyptienne en 1908, attaque les débouchés azariens, jusque-là des monopoles, en matière d'enseignement et d'accès à la fonction de juge. Les professeurs et étudiants à Al-Azhar sont à la fois de plus en plus nombreux et de plus en plus pauvres au fur et à mesure du XIXe siècle. La plupart ne finissent pas leurs études et n'obtiennent pas leur diplôme qui ferait d'eux des oulémas à part entière. Rentrés dans leur village, ils y font alors office de récitateurs du Coran, gardiens de tombeaux de saints, copistes de manuscrits, maîtres d'écoles coraniques. Seul un petit nombre d'entre eux deviennent oulémas, à leur tour professeur à Al-Azhar, juge ou mufti, à moins qu'ils ne quittent le système azarien pour suivre le cursus des écoles modernes. La césure entre enseignement moderne et enseignement islamique traditionnel ne fut pourtant jamais totale. Les professeurs des écoles modernes au XIXe siècle venaient du système azarien, de même que les premiers ingénieurs ou médecins que connut l'Égypte. Inversement, certains cheikhs à l'esprit plus ouvert faisaient place dans des cercles informels à des idées et des sciences nouvelles. Quant à la vie quotidienne des étudiants et de leurs professeurs vers 1900, quelques témoignages permettent d'en donner une idée. Les étudiants logeaient dans des pensions, vivant dans la promiscuité et la brutalité, et ne retournaient que pour leurs vacances dans leur village d'origine. Dans la mosquée, mal éclairée, par des chandelles à l'huile, plus tard par l'électricité, grouillait un personnel nombreux, balayeurs, portiers, surveillants, muezzines, le fonctionnaire chargé de renouveler l'huile des lampes ou de nettoyer les lustres. C'est donc dans le brouhaha constant et le va-et-vient permanent de la vaste salle des prières que se déroulaient les cours au pied des colonnes. Les étudiants, assis en tailleur, y formaient un cercle autour du maître de leur choix, sans obligation particulière d'un cursus inexistant. Aucune assiduité n'était exigée. L'année scolaire n'avait ni début ni fin bien définie. Le fiqh, le droit musulman, était considéré comme la matière principale, suivie de disciplines comme le commentaire coranique, le hadith ou le tahwid, qui concerne la théologie, suivie également de cours de grammaire et de rhétorique. À ces cours se mêlaient des dévotions soufies, uniquement pratiquées au XIXe siècle par les oulémas et leurs étudiants. Au sein des confréries se complétaient les apprentissages. mais aucune des sciences dites modernes, telles que l'histoire, la géographie, les mathématiques, les sciences naturelles et l'astronomie, a fortiori aucune langue étrangère n'était enseignée. L'un des buts constants de la réforme sera de diversifier les matières. La pédagogie consistait à recourir systématiquement à des commentaires et des gloses ou des commentaires de commentaires pour étudier un texte de base qui n'était lui-même que rarement un texte ancien ou réellement fondamental. L'enseignement était donc fondé avant tout sur le respect des maîtres et des prédécesseurs et sur la succession d'ouvrages appris par cœur et que l'on décortiquait mot par mot. La réforme d'Al-Hazar devint à la fin du XIXe siècle et pour longtemps le cheval de bataille des réformistes musulmans. La première réforme très timide consista en 1872 à instituer un examen pour le recrutement des nouveaux professeurs. Le cheikh Mohamed Abdou s'efforça sans grand succès d'imposer des réformes, programmes de cours, examens annuels et ouverture aux sciences modernes. C'est sous son impulsion qu'entre 1895 et 1911, des lois s'efforcèrent d'organiser administrativement Al-Hazar, d'améliorer les honoraires des professeurs et d'établir des examens. La loi de 1908, qui séparait les études en trois cycles, primaire, secondaire, supérieur, suscita une agitation estudiantine jusqu'en 1909, amenant le gouvernement à réitérer la loi en 1911. En 1919, lors de la Révolution, les oulémas d'Al-Hazar jouèrent pour la dernière fois un rôle politique important. Dans l'entre-deux-guerres, des réformistes musulmans comme Rachid Rida espéraient encore faire des oulémas ouverts à la réforme le fer de lance de la lutte pour l'islam menacé. Le projet de réforme du cheikh Marahi en 1828 suscita l'enthousiasme. Mais ce projet, ignoré par le roi, fut abandonné par son auteur lui-même, lorsque celui-ci redevint cheikh d'Al-Hazar en 1935. Le système hazarien, marginalisé, paraissait complètement paralysé et des intellectuels sans formation religieuse, comme les frères musulmans, issus de formations modernes, prirent dès la fin des années 20 le leadership de la pensée religieuse en Égypte. En 1961, Al-Hazar fut nationalisé par l'État égyptien, ses oulémas fonctionnarisés et son cheikh nommé par décret par le président de la République. Aujourd'hui, Al-Hazar, qui a essaimé dans toutes les grandes villes provinciales, compte 20 facultés, dont plusieurs ont un but séculier, comme les langues, la pédagogie, l'agriculture, la médecine, et dont certaines sont même féminines. Al-Hazar recrute dans un système endogène qui compte plus de 1000 instituts hazariens en province, de niveau élémentaire, primaire ou secondaire. Ce système regroupe notoirement des élèves de niveau très faible et d'origine sociale très modeste. Destiné en principe à servir de caution islamique à la République égyptienne, Al-Hazar compte pourtant nombre d'oulémas proches des islamistes. Concurrencé par des prédicateurs privés et autodidactes, critiqués pour leur soumission au pouvoir, les oulémas hazariens ont réagi depuis longtemps, notamment avec la création en 1978 d'un institut de prédication islamique fort dynamique auprès des étudiants étrangers. Retrouvez ce texte écrit par Catherine Maier-Jaouen, spécialiste de l'islam contemporain, sur notre site internet www.canalacademy.com.